Ça y est, l'écologie est enfin chaque jour à la une des médias. Aucune journée ne se passe sans son lot de rapports, de chiffres, de titres chocs, tous plus inquiétants les uns que les autres. De quoi se sentir aussi impuissant qu'un vermisseau face à l'immensité de la tâche à accomplir pour sauver notre belle planète. Mais puisqu'un seul ver de terre peut sauver tout un jardin, pourquoi nos simples gestes mis bout à bout ne pourraient-ils pas changer tout l'avenir de l'humanité ? Si le sentiment d'être impuissant nous noie dans le pessimisme, son meilleur remède pourrait bien être l'action. Une action engagée, aussi discrète qu'efficace, aux effets d'entraînement incommensurables. Et si on commençait aujourd'hui ? Je suis Cléa, autrice culinaire et exploratrice de solutions pour un avenir plus vert. Pour m'aider à cheminer, je suis partie à la rencontre des acteurs de l'écologie que sont les auteurs des éditions Terre Vivante. Ces femmes et ces hommes nous permettent de remplir une magnifique boîte à outils, 100% recyclée et recyclable, avec des gestes et des pratiques vertueux qui nous redonnent les pleins pouvoirs et l'optimisme qui va avec. Cet épisode un peu particulier est divisé en deux parties. Dans la première, je vais revenir avec Delphine et Nirvan sur la genèse du projet Tatup, la création d'une boulangerie bio, artisanale et responsable, à l'issue d'un voyage autour du monde et autour du pain, qui a duré près de 2 ans. Et dans la deuxième, nous passerons à la pratique avec une immersion dans le fournil, des histoires de levain, de rosace et de chocolat. Delphine et Nirvan, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, avant de parler de Tatup, j'aimerais que vous vous présentiez à nos auditeurs. Peut-être d'abord Delphine.
Oui. Alors, moi, je suis à la base illustratrice. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour tout ce qui est livres et magazines pour enfants. Je ne m'attendais pas à devenir vendeuse en boulangerie avec mon mari dans l'Ain. Et en fait, moi, mon petit parcours personnel, c'est-à-dire tout le changement que j'ai voulu faire au niveau d'être passée déjà végétarienne, c'est ça qui m'a donné l'envie ensuite de travailler, d'être plus dans l'écologie, de trouver des choses plus éthiques, de faire, de changer un petit peu, d'avoir une envie de changer le monde quelque part. Donc moi j'ai commencé il y a 10 ans à me lancer sur le végétarisme et sur toute une façon de vivre alternative. Et voilà, donc ça fait 10 ans qu'on fait ça maintenant. Je suis quand même vachement intimidée, donc c'est pour ça que j'arrive pas.
On va développer après. Peut-être Nirvan, alors, tu veux nous dire d'où tu viens ?
Pour ma part, j'ai des parents qui sont d'origine diverse. Hein. Ma mère, elle était mauricienne d'origine indienne. Mon père, il était alsacien. Voilà, pur alsacien. C'est comme toi, Delphine. Hein.
Oui, moi, mes parents, donc c'est ma mère est pure maliège et mon père est pur savoyard, on dit. Pas que français, mais savoyard. Donc, on a tous les deux des origines un peu diverses, mais quand même à côté.
Voilà, et surtout, ça fait des forts caractères aussi. Donc, nos points de départ, c'est un petit peu aussi le point commun qu'on a, c'est ce côté métissé. Et du coup, quand on s'est rencontrés avec Delphine, moi, je devais être dans ma 3e ou 4e expérimentation professionnelle après l'école, on va dire, en termes de lieu de vie, déjà. Et puis, j'avais été dans une 12aine d'entreprises différentes. Donc, je suis arrivé en Savoie pour prendre un poste dans un magasin de moto. Voilà. Donc, un poste de responsable en vente chez un concessionnaire moto. Et du coup, rien ne me prédestinait à la boulangerie, finalement.
Oui, c'est quand on s'est rencontrés, du coup. En fait, mes parents ont un four à bois. Donc quand on allait régulièrement chez eux, c'est là où Nirvan s'intéressait au four à bois. Il disait, bah, j'aimerais bien... à la base, il aurait voulu faire pizzaiolo. Enfin, pas pizzaiolo, mais il voulait ouvrir sa propre pizzeria avant ses 30 ans. C'était son but bien précis. Et puis du coup, il s'est un peu exercé sur le four à bois de mes parents, où il a pu voir que c'était pas si facile que ça de faire du pain, finalement. Et c'est là où il s'est lancé dans... quelques années après, dans cette nouvelle passion de comment savoir faire du vrai pain.
Donc là, c'était en amateur.
Ouais. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu des problématiques avec l'alimentaire sur le plan de la santé, de la digestibilité. Et ça m'a poussé à beaucoup me questionner et à revoir mon alimentation régulièrement, à pratiquer des jeûnes. On a pratiqué des cures de raisins régulièrement.
Des cures de
crues. Des périodes crudivores. Enfin, on était beaucoup dans l'expérimentation et dans la recherche, en fait, à une époque où tout ça était très balbutiant sur les réseaux. Et puis, c'est de cette manière que je me suis dit, peut-être l'alimentaire, c'est intéressant. Comme secteur aussi, je connais pas du tout. Et j'ai un petit peu mis en place cette envie de taquiner le four à bois et puis de découvrir les parties un peu cachées d'une bonne pizza, quoi. Parce que on a l'impression que c'est simple comme ça, mais en vérité, pour devenir un bon pizzaiolo, il a fallu que je commence par être un bon boulanger, parce qu'il faut comprendre la pâte. Et c'est quand même la base d'une pizza, et encore aujourd'hui, c'est un challenge de chaque jour, quoi.
Tout compte, la température, la qualité de l'eau, de la farine.
Ouais, l'origine. Le...
Il faut avoir une bonne pâte et ça suffit pas. Des fois, on remarque souvent quand on va peut-être dans des bonnes pizzerias, il y a soit la pâte est bonne, soit la garniture, pas souvent les deux. Donc c'était un petit peu le challenge que nous on recherche dans la pizza.
Ouais, c'est vrai que à un moment donné, on goûtait les pizzas dès qu'on nous disait ouais, c'est extraordinaire là, faut aller voir et tout, on y allait et puis on commandait une pâte avec une base tomate sans rien d'autre, filet d'huile d'olive pour voir si vraiment si là ça faisait un crush, quoi. On se disait effectivement, là on peut commander une pizza maintenant, on sait. Là, ça envoie. Mmh. Et en fait, ça arrive pas souvent qu'on passe ce stade-là, quoi. Parce que beaucoup de personnes ne s'investissent pas personnellement dans leur super sauce tomate et dans leur super pâte, alors que c'est tout, en fait. Ça peut suffire à faire une explosion de saveur, en fait. Et du coup, sur ce chemin, pour revenir au sujet, je me suis retrouvé à découvrir un élément que je connaissais très peu. On en entend parler parfois de manière fugace, mais on ne sait pas ce que c'est le levain, qui n'a rien à voir avec la levure, en fait, qui est une culture, basée sur une fermentation de farine et d'eau, et qui produit, en fait, des populations de bactéries qui vont, grâce à une production d'acidité, amener la pâte à fermenter. Et donc faire des bulles et puis être vivante, etc. La levure, à contrario, on est sur une culture de champignons, en fait, qui est le Saccharomyces cerevisiae, qu'on utilise aussi pour démarrer la bière et puis dans plein d'autres domaines, et qui est aussi très très bien, mais qui n'a pas les mêmes effets sur, déjà d'une part sur l'organisme, dans le cas du gluten notamment, et de toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui avec le gluten. Effectivement, moi, aujourd'hui, avec le recul et puis la boulangerie qui est ouverte, etc., on peut dire qu'on a une clientèle un peu sans gluten, qui avait des problématiques intestinales ou simplement digestives, et qui se retrouve à pouvoir remanger du pain, ce qui a été mon cas aussi, grâce à la découverte justement du pain au levain. Et le pain au levain, je crois qu'on a une des façons... Je dirais pas, on n'a pas la façon, parce qu'il y a énormément de gens qui font ça à travers le monde. Sur les réseaux, on voit des choses magnifiques et tout. Mais je pense qu'on est parmi ceux qui cherchent à le travailler le plus respectueusement possible, quoi.
Et c'est cette découverte qui est à la base du projet Tatup.
Ouais, oui.
D'abord, ça veut dire quoi, Tatup?
Alors, Tatup, c'est un anagramme. Donc, c'est pour mélanger nos deux passions. Donc, l'illustration...
Non, c'est un acronyme.
Acronyme, je savais que je m'étais plantée.
C'est pas moi qui vais vous contredire.
J'ai jamais anagramme, acronyme. Donc, c'est un acronyme pour mélanger nos deux passions, donc le pain et l'art. Donc, le premier, c'est traverser au trait d'un pinceau. Et l'autre, c'est quoi ?
Terre autour d'un pain.
Terre autour d'un pain.
Bon, évidemment, quand
c'est trop long,
la lettre, ça c'est un peu il y a une apostrophe qu'on a décidé de d'éluder, etc. Mais en fait, c'était surtout pour trouver un nom qui soit
commun et qui soit facile à utiliser, à reconnaître, et à la base qui devait servir pour notre projet numéro 1, en fait,
qui était donc le voyage autour du monde.
Donc c'est là, on va parler de ce projet de voyage qui sous-tend finalement le projet numéro 2. Vous avez voyagé pendant pas loin de 2 ans. Vous avez traversé 15 pays différents.
25. Oui.
D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette aventure ?
Alors en fait, si on est parti en voyage, c'est surtout après le décès de la mère de Nirvan. C'était en 2013, du coup, on s'est mariés cette année-là. Et suite à l'annonce de... Elle a eu un cancer du pancréas, donc on savait que ça allait être rapide. Donc on a annulé notre mariage qui était prévu en France pour tout faire à l'île Maurice et pour pouvoir être auprès d'elle et faire ça vraiment en famille. Et suite à ça, ça nous a mis une remise en question de nos projets de vie. On se disait, là, on n'a peut-être pas énormément de temps pour encore travailler, pour Nirvan, en tout cas, travailler en vente, dans la moto, continuer à... Peut-être qu'il est temps de se lancer dans nos projets à nous. Et l'année qui a suivi, c'est là où Nirvan s'est mis en recherche d'une école de boulangerie. Et c'est là où il a trouvé la fameuse école à Sisteron de l'EIDB, donc l'École internationale de boulangerie. Et donc, il a fait son stage de 4 mois. Et c'est là où il a vraiment découvert le levain et tout ce qui était autour. Et suite à ça, on a préparé notre voyage. Donc, ça a pris... Donc, c'était au mois de janvier, son stage. Et ensuite, au mois de septembre qui a suivi, c'est là où jusqu'à septembre, on a préparé notre voyage autour du monde, qui était un voyage minimaliste en sac à dos, du coup. Parce qu'on voulait pas avoir de valise, on voulait pas se retrouver coincé sans bagages, si jamais on perdait nos bagages dans l'avion, enfin des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va voyager petit, ce qui est vachement dur pour une fille. Parce que moi, en plus, j'aime...
Illustratrice en plus.
Et en plus, illustratrice. Donc il a fallu trouver des moyens qui n'étaient pas encore... Maintenant, on a des iPads, on peut dessiner dessus, c'est super facile. Mais à l'époque, j'avais pas tout ça. Et en plus, je faisais partie d'une... Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un, un autre illustrateur ou illustratrice comme moi, qui pouvait voyager et dessiner en même temps. Donc j'étais... Je crois que je faisais partie des premières.
Et parce qu'en fait, vous êtes partie... avec un objectif en tête, mais tout en continuant à travailler en freelance pour
c'est
toi,
ça.
Delphine.
Ouais,
quel était l'objectif du voyage ?
Alors, déjà, l'objectif du voyage, c'était d'en prendre plein les yeux, hein, je pense, de s'ouvrir sur le monde. Ça, on le sait après, en fait. Quand on s'est ouvert sur le monde, on se dit, ma façon de penser, je savais qu'elle n'était pas universelle, mais à ce point, enfin voilà... C'est se rendre compte qu'il y a des millions d'interprétations sur une philosophie quelconque et qu'on peut pas se borner juste à des mots. Il y a des langues, il y a des ethnies, il y a des cultures, il y a des vécus, il y a tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on a récolté presque sans faire exprès. Après, en l'occurrence, ce qu'on recherchait, c'était justement à se parfaire un petit peu dans nos domaines et à essayer aussi et surtout de trouver l'endroit parfait pour monter une boulangerie.
Oui, pas forcément en France. Donc, vous cherchiez un pays d'accueil quelque part.
On s'était dit, c'est soit la Nouvelle-Zélande, soit les États-Unis. Du coup, on s'est dit, ça fait partie des endroits, même le Mexique, on a eu un petit crush sur le Mexique, on s'est dit, ça peut être les endroits où on aimerait bien, aimerait bien établir notre boulangerie. On avait toujours en ligne de mire, on avait en comparaison Thoiry dans les Bauges où on habitait, parce que c'est tellement beau qu'on disait non, mais c'est pas aussi bien que Thoiry, non, mais ça, c'est pas aussi bien que Thoiry. Donc c'était un peu notre
Thoiry contre New York.
Voilà, c'est ça. Même Los Angeles, pour être précis. Non, c'est pas Los Angeles, San Francisco. Voilà, c'est ça. Puis finalement, on s'est retrouvés en plein milieu en France. Dans l'Ain.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de voyage? Vous êtes allé à la rencontre de boulangers?
C'est ça. On a tout, dès que dans chaque pays, on a trouvé. En fait, on est allé à la recherche de tous ceux qui faisaient du pain ou de la pâtisserie ou des gâteaux, des choses comme ça. Et puis ça, c'était pour Nirvan, pour la partie de Nirvan. Et moi, pour ma partie, tous les artistes ou les peintres, les sculpteurs, tout ce qu'on pouvait trouver d'artistique et qui était un petit peu sur le côté manuel, je dirais, parce que moi j'étais beaucoup dans le digital et le numérique, et en fait j'ai essayé de rencontrer des peintres en lettres, puisque j'ai fait ça aussi comme formation avant qu'on parte en voyage, parce que ça faisait partie des métiers qui ont disparu et qui reviennent petit à petit, c'est un peu vintage et tout, surtout aux États-Unis, ils sont fans, donc c'est là-dessus qu'on s'est lancé.
Et vous aviez aussi l'objectif de partager toutes vos découvertes au travers d'un blog.
Oui, c'est vrai que le blog il a pris naissance parce que on s'est dit qu'on pouvait pas juste voyager comme ça. C'est sans but, sans
il nous
sans,
fallait une ligne de conduite pour pas dévier ou pas s'arrêter en tout cas.
Pas faire juste du tourisme.
Ouais, voilà. Ça. On n'était pas là pour faire que du tourisme classique. On voulait vraiment avoir cette particularité. Et du coup, le blog permettait de raconter.
De canaliser nos énergies
en
un point
commun.
Quoi. Voilà. Et c'est vrai que le blog nous a poussé quand même beaucoup à au-delà de nos propres limites, parce que quand on démarre le blog, il faut se doter de nouvelles compétences. Et là, je me suis dit, mince, je sais pas prendre une belle photo, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est joli, mais pourquoi, quand je regarde cette photo-là, ça fait autre chose, quoi. Donc, du coup, j'ai utilisé un petit peu mes droits à la formation Pôle emploi pour faire une formation photo en vue de la mise en place du blog. Donc ça a marché, ils m'ont financé ça. Bon, c'était pas des mille et des cents, hein. J'ai fait quelques sessions, je suis allé à Paris me former auprès de Thierry Chantegré, qui est un photographe parisien qui voyage beaucoup en Inde. Et d'ailleurs, justement, cette rencontre a permis aussi de nous dire qu'on allait faire justement un stage, Delphine et moi, enfin tous les deux, lors de notre voyage en Inde, quoi. Du coup, on l'a revu en Inde et on a eu un stage hyper personnalisé qui a encore donné du level à notre prise d'image, en fait. Et la compréhension du monde à travers le cadrage photo aussi. Donc,
Et qu'est-ce que vous avez rapporté de ce voyage, finalement?
De tout le voyage. Ouf.
Quelle conclusion vous en avez tirée, ou alors vers quoi ça vous a porté ensuite?
Il y a eu beaucoup de remises en question. Je pensais surtout finalement des voyages. C'est plutôt un voyage personnel qu'on fait. C'est plutôt un travail sur soi,
parce qu'on initiatique.
Oui, initiatique. Enfin, moi, c'était vraiment ça. En plus, je me suis mis énormément de pression au niveau du blog. Parce que c'était enfin le moment pour moi de m'exprimer librement, puisque souvent dans les contrats que j'avais, il fallait que j'ai un certain style, que je ne pouvais pas être libre complètement dans ma créativité. Et là, c'était l'occasion avec Tatube d'être libre, de faire vraiment ce que j'avais envie. Et je me suis mis une telle pression que je n'ai pas réussi à tenir la longueur. Moi, je me suis arrêtée, je crois que je me suis arrêtée à l'Inde, ce qui n'est pas beaucoup en fait, ou peut-être le Népal. La Thaïlande même.
Thaïlande.
Je crois que je me suis arrêtée à la Thaïlande et après j'ai pas pu tenir j'ai abandonné Tatube lâchement parce que j'avais beaucoup de travail à côté en fait.
Oui, c'est ça.
En fait moi tout était bien orchestré parce que quand on est parti avant de partir en voyage, j'ai eu un gros contrat avec une maison d'édition et je dis bah c'est parfait, il va durer 2 ans, pile poil le temps du voyage. Du coup ça va nous permettre de continuer à vivre. Et j'aurais pas besoin d'autre chose. Et j'aurais juste à faire le blog à côté. Et en fait, non, j'ai décidé, il y a eu d'autres petits contrats qui se sont rajoutés, je me suis mis de plus en plus de pression, il y a eu un projet qui m'a engloutie, en fait, ça a été assez dur d'en sortir. J'ai fait un burn-out en Thaïlande où j'ai dormi 3 jours, où j'avais tout perdu mon énergie parce que j'ai trop donné, en fait. Je me suis rendu compte qu'il était temps peut-être de revoir les priorités, mais j'ai décidé de faire un dessin par jour pendant un an après, histoire de mettre encore plus de pression. Donc, c'était pas mieux. Et puis, Nirvan était quand même gentil. Il se disait, bon, bah, elle fait son truc. Tant pis, moi, je vais faire ta tube tout seul dans mon coin. Et moi, j'étais, oui, oui, j'arrive. Je vais faire encore ces 4 trucs. Et puis après, je reviens à tout ça.
Je commandais mes besoins d'illustration pour ta tube et de charte graphique par mail à Delphine pour être sûr qu'elle les lise et réponde, quoi.
Donc, pendant ce temps, toi, tu as eu l'occasion de faire des découvertes sur le plan boulangerie?
Oui, bah, après, ça, bah, la boulangerie, le côté pratique, enfin, c'est des métiers à travers le monde où il faut être ouvert tôt dans plein de circonstances. Sauf exception, hein, j'ai des copains qui ouvrent, on en parlait un autre moment, j'ai des copains qui ouvrent tard justement pour pouvoir ne pas travailler la nuit, mais grosso modo je me suis toujours souvent retrouvé à entre 2h et 6h du matin à aller visiter des fournils ou des cuisines.
Et donc moi je dormais.
Voilà, donc ça permettait, si on veut, d'optimiser le temps en commun aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des découvertes qui t'ont particulièrement marqué, qui vous ont marqué en termes de, bah, de nourriture, de pain de...
Alors, en termes de nourriture et de pain, ouais, c'est sûr que ben, les cuissons vapeur, moi j'ai encore quelque chose que j'arrive pas, dont j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est à Bali, ils ont tout plein de petites pâtisseries. Enfin, c'est pas vraiment des pâtisseries, ce serait des genres de cakes cuits vapeur avec de la farine de riz. Enfin, c'est hyper moelleux, sans gluten, je pense. Je sais pas, en fait, s'il y a de l'additif dedans ou quoi.
Et... du tapioca, probablement.
Oui, voilà. Et puis, du pandan aussi, qui est une herbe de là-bas. Enfin, une plante.
Qui fait des gâteaux bien verts.
Verts, ouais. Et bon,
c'est beau.
Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et le problème, c'est qu'on parlait pas la langue. Alors, mais on s'est compris suffisamment pour que je fasse un petit reportage avec plein de belles photos, quoi. Parce que du coup, le blog, ce qui nous a apporté aussi, c'est de nous donner une vision journalistique de la manière de présenter les choses, ben, en parlant des personnes, en parlant de leur parcours, en parlant, et puis on sache, enfin, il y a une limite aussi avec l'aspect politique. Quand on visite la Birmanie, qu'est-ce qu'on choisit de dire, de pas dire? Est-ce qu'il faut, on est là pour parler de quoi? Donc tout ça, c'est des sujets très particuliers qui sont relatifs au blogging et au journalisme en général. Donc ça aussi, c'est des, enfin, un petit aparté comme ça, c'est des choses qui ont... Enfin là, j'ai plein d'images dans la tête de gens, de rencontres et de...
Ouais, ça devait être riche.
ça revient, c'est quand même dingue.
Et alors finalement, ouais. Vous n'avez élu ni la Nouvelle-Zélande, ni San Francisco, ça a été Amberieu, Ambugey, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, la Nouvelle-Zélande, c'était quand même super loin pour qu'on revoie nos amis et nos familles. Le San Francisco, ils avaient déjà quand même pas mal de boulangeries ou le vin.
Ça n'empêche pas, ça montre qu'il y a un marché.
Oui.
C'est le truc, c'est qu'il y a... Il y a eu Trump.
Ah, mais. Oui.
Parce qu'on est rentré, le temps de
nous,
se
on est
poser.
Arrivé avec, et... On est allé aux États-Unis avec Obama quand même.
Ouais, c'est vrai que c'était encore cool.
Mais du coup, en fait, après 2 ans de voyage, enfin, moi j'étais quand même vachement dans la course à quel voyageur minimaliste va rester encore plus longtemps. Le but, c'était, on peut rester encore peu de temps. Si on fait 3 ans, on est des voyageurs de fous et tout. On est toujours dans la course à quelque chose comme ça. C'est débile, mais on est humain, c'est comme
tu
ça.
Tu veux dire l'ego?
Voilà, l'ego, l'ego de Delphine et son minimaliste. Comment réduire de plus en plus son sac à dos alors qu'elle achète d'autres vêtements qui ne vont pas lui servir? Et en fait, au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, moi, j'étais épuisée, vraiment. J'étais encore plus ou moins... on va dire, c'était un peu des moments dépressifs, de pas savoir, de toujours être en mouvement, de pas avoir un endroit,
un ancrage,
un endroit à nous. C'est surtout ça qui nous pesait. Et la Nouvelle-Zélande nous a permis d'avoir un petit moment de chez nous, parce qu'on a vécu dans un van pendant 3 mois. Un van surtout Nirvan qui l'a aménagé petit à petit, et c'était vraiment un petit moment de bonheur d'être là-dedans, d'être autonome.
D'avoir un nid, ouais.
D'avoir un nid et tout. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est après plus d'un an de voyage, est-ce qu'on rentre directement? On termine pas notre voyage. Donc là, on avait fait toute l'Asie, on était descendu jusqu'à Thaïlande, Singapour, on est arrivé à Bali, ensuite l'Australie. 3 mois dans l'Australie, puis où Nirvan espérait travailler correctement en tant que boulanger, parce qu'on pouvait avoir un visa vacances-travail là-bas, et ça n'a pas marché non plus. Du coup, on a fait encore 3 mois en Nouvelle-Zélande, et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe de l'autre côté de l'Atlantique? C'est ça, hein, dans le Pacifique? Je sais jamais.
Non, c'est le Pacifique.
C'est le Pacifique. Donc le grand océan. Enfin, je suis nulle en géographie, en fait.
En fait, elle était bonne en géographie. Tant qu'elle dessinait les cartes,
ouais,
à l'époque,
ça, ouais.
Sur le moment, t'étais meilleure que moi, rappelle-toi.
Et oui, c'est vrai que j'étais très bonne. C'est moi qui faisais toute la visualisation, donc je savais où on était au niveau de la carte et du globe. Et je me disais, est-ce qu'on passe du côté du Mexique ou pas? Est-ce qu'on se lance? Et puis l'ego était plus fort, donc on est parti côté Mexique. Et là, ça a été une grosse surprise pour moi, parce que moi, j'étais pas du tout Amérique du Sud, même si c'est pas trop l'Amérique du Sud.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé en Amérique centrale plutôt. Ouais. C'est le Mexique, c'est pas très bas.
Ouais, c'est pas très. C'est pas les États-Unis trop, quoi.
Non, mais c'est sûr.
On m'a dit qu'on parlait pas grammaire ni géographie, alors.
Qui c'est qui a dit ça?
Mais du coup, ouais, le Mexique, c'était vraiment une belle découverte. Parce qu'au niveau gustativement, mais c'était. C'était génial. Il y avait, en plus, pour manger végétarien, c'était super. C'était ça aussi la difficulté dans le voyage. On se dit, est-ce qu'on va réussir à être végétarien? Alors, c'était beaucoup, hein. Minimaliste. Végétarien.
Vous êtes mis la pression, travailler à distance.
Travailler à distance, faire un blog, avoir des contenus qui soient intéressants. Donc, c'était pas des vacances comme souvent. On nous disait, alors les vacanciers, les vacances, c'est pas tout à fait ça, quoi. Là, on était quand même dans du travail tous les jours. Et du coup, le Mexique, ça a été découvert vraiment des vrais avocats. Ça, c'est des vrais avocats qui sont bons. Ça, c'est et du chocolat aussi. Du
Il
chocolat 18 qu'on.
18 mois de maturation sur l'arbre, hein, l'avocat.
Et des plats carrément salés qu'on mange avec du cacao, en fait. Donc ça, on connaissait pas. Donc on s'est vraiment gavé comme des gros chameaux. C'était génial, le Mexique.
Mais donc, on n'est pas au Mexique ici. Alors pourquoi? Comment est-ce que vous avez atterri?
Oui, c'est vrai que c'était la question. Heureusement que tu gardes la question en tête, parce que, oui, on s'est dit que Nouvelle-Zélande, c'était loin. On peut peut-être garder ça pour nos, entre guillemets, vieux jours, parce que maintenant, tout est incertain. Mais effectivement, on cherchait. Alors on s'est dit, on va plutôt regarder en région Rhône-Alpes, notre région de cœur en fait, en France pour l'instant. Et puis le Rhône-Alpes, il y a l'un quoi. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi spectaculaire que les grandes montagnes et les grandes étendues. Mais il y a des jolis petits coins partout, de toute façon, en France, y compris dans l'Ain. Mais c'est surtout qu'il y avait, après avoir passé 8 mois, on a fait 8000 kilomètres sur les 8 mois pour essayer de trouver un endroit où poser la boulangerie, quoi. Et ces 8000 kilomètres, on les faisait alors que je faisais du covoiturage pour aller travailler, que je travaillais en plus en déplacement. Donc j'avais pris un job dans une boulangerie et je vivais sur place en fait. Donc quand je rentrais le week-end, on partait visiter des lieux, quoi, des sites. Donc à la fin, je pense qu'il y a un côté lâcher prise où on s'est dit bon, si vraiment là il y a presque tout, si c'est pas tout à fait ça, c'est même pas du tout à fait ça, mais il y a un feeling, quoi. Ça, je pense que c'est là qu'on s'est dit il faut peut-être se lancer là, faut se lancer.
Donc vous avez trouvé un local.
Ouais.
Et vous vous êtes lancé.
C'est ça.
Comment est-ce que vous avez financé le projet?
Alors, moi, j'ai un BTS en management que je pense qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où j'adore construire des projets. Donc même le voyage, il était intégralement écrit d'abord sur 20 pages. Il y avait comme entre guillemets un business plan du voyage, quoi, avec tous les frais financiers, les visas. Il y avait un sommaire sur tous les éléments du voyage, tous ceux qu'on peut maîtriser un minimum, parce que c'est après on a respecté les choses à, je dirais, à 50%, quoi. Après, on a laissé la place quand même à la découverte. Et là, c'est pareil. Après, je me suis lancé dans un business plan qui m'a pris, je crois que j'ai pris 4 mois à l'écrire pour qu'il soit nickel, 30 pages avec tous toutes les références Ipsos et les statistiques et tout le truc. Parce que sur un métier qui n'est pas très connu des banquiers, la boulangerie bio, en fait. Donc trouver un financement auprès des banques, sachant que on est sur un métier qui n'est plus tellement financé par les banques aujourd'hui, c'est financé par les meuniers. Et pourquoi vous vous faites pas financer par le meunier? J'ai eu la question. C'est parce qu'on veut rester indépendant et faire un produit différent, voilà. Donc on s'est quand même doté de l'appui d'un meunier à la fin, parce que en fait on a trouvé des super farines bio. Puis c'était des gens qui avaient une philosophie, enfin qui ont une philosophie sympa. Donc c'est le minotier Marion qui est à Saint-Jean-sur-Vel, donc aussi c'était local dans une certaine mesure, on va dire. Et effectivement, grâce à eux, on a quand même trouvé le bon comptable. Bon, je suis super content encore aujourd'hui. Et puis le juriste qui a pu faire tout de suite la mise en marche des statuts et tout ça pour la création. Et puis un courtier en banque qui m'a permis d'un peu mieux orienter encore le business plan pour que ce soit sûr que ça marche, quoi. Et puis alors j'ai eu l'appui extraordinaire aussi de l'IPAC, qui est un organisme de financement d'initiative, en fait, qui permet de décrocher des prêts à taux zéro, certains montants. Et ce prêt à taux zéro donne une garantie supplémentaire puisqu'il s'inscrit à l'apport en supplément. Voilà, pour les banques ensuite. Et puis comme Delphine, elle avait travaillé pendant le voyage et qu'on avait été quand même hyper économe et qu'on avait réussi à bien se débrouiller sur plein de choses, genre le van de Nouvelle-Zélande, on a réussi à faire en sorte d'amortir tout le coût de vie locale parce qu'on a mis une valeur ajoutée importante au van puisqu'on l'a équipé, enfin j'ai passé des heures et des heures et des heures. On avait un panneau solaire, on avait tout le nécessaire dedans pour une vie presque pop-up, quoi, partout. Donc on s'installait, à la fin on avait fait certifier pour self-contained, ça permet d'aller dans les parcs naturels sans prouvant qu'on va pas déranger la biodiversité, etc. On avait aussi une douche pop-up, quoi, enfin tout, même une petite machine à laver de voyage manuel, mais top pour justement être dans un confort relatif constant, quoi. Puis même un brin de wifi pour que Delphine puisse travailler. Donc ce qui fait que quand on a revendu le van, il y avait toute cette valeur ajoutée qui nous a permis d'un petit peu amortir la partie Nouvelle-Zélande. En Australie, le peu que j'ai travaillé, on a quand même réussi un petit peu à amortir. L'Asie, autant dire que ça coûte pas grand chose, quoi. Et puis on a aussi un petit peu fait de la com pour des hôtels, etc. J'ai fait des formations de pain et croissant dans des structures hôtelières, donc ça a permis aussi de résider tranquillement. Et voilà, donc ce qui fait que du coup on avait un super apport aussi pour la boulangerie, quoi. On est arrivé, on avait quasiment 20 000 euros et puis l'IPAC m'a prêté 20 000, donc on avait 40 000 d'apport, quoi. Donc ce qui fait qu'on était éligible à un investissement colossal, je dirais, c'est des sommes, voilà, pour le projet que je voulais ou qu'on voulait, on n'a pas hésité et on est allé, on a fait une dépense de 275 000 euros, qui est énorme pour une boulangerie, mais qui n'est pas si grosse pour une entrée dans le monde du commerce quand même, quoi. Parce que d'habitude, il y a des pas de porte, d'habitude, il y a des fonds de commerce à acheter, etc. Là, nous, non, c'était juste, on allait construire un four à bois, on allait casser le sol, on allait, voilà, c'est ce qu'on voulait mettre en place, quoi. Voilà.
Voilà pour la jeunesse de Tatu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Champ d'Action pour voir comment Delphine et Nirvan mettent aujourd'hui concrètement en œuvre leurs projets. Pour être tenu informé des prochains épisodes, écoutez ou réécoutez les épisodes précédents, connectez-vous sur champdaction.org, suivez-nous sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à Champ d'Action sur les principales plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.